105 Montréal. Attendez-vous à plus.
98.5
Drainville PM. Politique.
Il est clair que l'industrie, comme elle est configurée présentement, a un besoin de main-d'œuvre additionnelle et nous allons faire tout ce qu'on peut faire pour faire le pont. Je ne peux pas parler au nom de M. Bellemare. Là. Je peux dire, il y avait deux personnes de Bombardier ici aujourd'hui. Je suis en contact avec M. Bellemare. Je ne veux pas défendre Bombardier, mais aujourd'hui, bon, la réunion s'est organisée relativement rapidement. On s'entend qu'on a fait ça en fin de semaine. Alors, je ne peux pas commenter sur ça. Ce que je peux dire, c'est que Bombardier était présent et ont contribué à la discussion ce matin, très activement.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ah, voilà une voix à laquelle on va s'habituer de plus en plus. Pierre Fitzgibbon, donc ministre de l'Économie dans le gouvernement Legault, à la suite de cette rencontre ce matin, donc avec Bombardier, toute l'industrie, le syndicat, le ministre Fitzgibbon, pour parler donc de ces 2500 employés de Bombardier qui vont perdre leur emploi dans les 10 à 18 prochains mois. Pour parler de ce premier sujet, mais aussi de bien d'autres. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Allô, allô.
Vas-y donc, Paul, là-dessus. D'abord, on s'entend que c'est une bonne nouvelle que ce monde-là se rencontre puis essaie de s'assurer qu'on n'échappe personne.
Oui, tout à fait. Ben, d'ailleurs, ce matin, Dave Chartrand, le responsable du syndicat, lui, est ressorti de là relativement optimiste, on s'entend, là, dans les circonstances, parce qu'il trouve que la rencontre s'est déroulée rapidement, puis qu'elle a été assez efficace. Et puis, il était content, entre autres, de voir la solidarité des gens de l'industrie, hein, parce que c'était pas seulement le syndicat Bombardier et le ministre Fitzgibbon qui étaient là. Il y avait toute une série d'employeurs. Là, j'en nomme quelques-uns. CAE, CMC, Esterline, Bell, Atta Précision, Groupe des Groupe Meloche,
Safran,
Aviation Bromont, Pratt & Whitney, etc.
Et Roudevtech.
Oui, c'est ça. Et ce qui rend aussi les travailleurs modérément optimistes, ou à tout le moins ce qui les console, c'est de voir que si Bombardier va mal, l'industrie va bien. Et il va y avoir besoin de travailleurs dans les prochaines années. D'ailleurs, il y a déjà besoin de travailleurs, y compris dans d'autres sections de Bombardier qui engagent en ce moment. C'est ça un peu le paradoxe. Là, pendant qu'on est en train d'annoncer ces mises à pied préoccupantes et douloureuses, ben ailleurs, il y a certaines embauches. La preuve, on a vu aussi qu'il y a 153 voitures de métro additionnelles qui vont être construites par Bombardier Alstom. Ça devrait aider les gens des usines à la Pocatière et à Sorel-Tracy. Mm-hmm. Ce qu'ils espèrent aussi, bon, ce sur quoi ils misent, en fait, c'est que quand tu as un CV puis tu travailles dans l'industrie, il y a un endroit, je ne sais pas techniquement précisément comment ça fonctionne, mais en gros, il y a un endroit où tu peux déposer ton CV, puis les différents employeurs peuvent y avoir accès. Mais écoute, on est en train, Bernard, d'essayer de voir le côté positif des choses, mais reste que, n'oublions pas l'essentiel de la nouvelle. On dit souvent que c'est 2500 personnes qui vont être touchées au Québec, mais pour l'instant, c'est pas mal pire que ça. C'est 15 000 personnes, parce qu'on ne sait pas qui va perdre son emploi à Bombardier. Donc, les 15 000 travailleurs sont inquiets. C'est ça, ils savent pas s'ils vont perdre leur job, puis quand ils vont la perdre, entre ici, puis les 18 prochains mois.
Les 15 000, il faut le dire, c'est les employés de Bombardier au Québec.
Exact,
15 000 employés.
C'est ça. Puis, c'est pas un petit chiffre, là, quand même, quand on regarde ça. Les mises à pied annoncées, 5 000 personnes dans l'ensemble de Bombardier, c'est 6 % de l'entreprise au Québec. Juste les travailleurs affectés au Québec, ça va être à peu près 3 % de l'entreprise. C'est quand même considérable, une annonce comme ça.
Oui, tout à fait.
Moi, c'est pour ça que, je comprends là, que M. Fitzgibbon voulait être gentil. Il n'a pas voulu s'en prendre à Alain Bellemare, mais ce gars-là, c'est le PDG de Bombardier.
Il aurait dû être
là. Il a touché 14 millions de dollars l'année passée.
Ouais.
Il n'est pas là. Puis non seulement il n'est pas là, il parle à personne. Il a refusé toutes les demandes d'entrevue. Moi, je sais que parmi ces 14 millions de dollars, là, je sais qu'il y a de l'argent des contribuables qui est allé dans ce salaire-là. Mmh. Je pense que ce serait important à ce moment-ci de l'entendre et qu'il participe à ce genre de réunion-là.
Ah oui, je suis d'accord avec toi, là. Je suis absolument d'accord avec toi,
Bernard. De l'entendre à tout le moins. C'est ça, il y avait deux personnes de Bombardier ce matin, le responsable des relations avec les employés et le responsable des affaires externes, Olivier Marcil, qu'on a déjà entendu à ton micro, Bernard. C'est lui, entre autres, qui est responsable de défendre Bombardier quand il y a des mauvaises nouvelles annoncées. Je ne sais pas ce que ça aurait changé concrètement si M. Bellemare avait été là, mais tout le moins, que ce soit à cette rencontre ou à d'autres endroits, on aurait voulu l'entendre parce qu'en effet, c'est là, l'impression l'impression que ça donne, c'est qu'ils sont même pas vaguement conscients de la grogne que ça suscite oui. chez la population qui a aidé Bombardier, puis ils voient que d'un côté, tu as les dirigeants qui empochent un généreux magot. On se demande s'ils sont récompensés pour leurs erreurs plus que pour leurs bons coups. Puis de l'autre, ben, comme d'habitude, devine qui encaisse pour les mauvaises nouvelles, ben, c'est les travailleurs.
Oui, tout à fait. Très bien, bien noté. Carl, parle-nous un petit peu de ces cérémonies autour des commémorations des 100 ans de l'armistice, hein, 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Mettons que Trump a volé la vedette, mais pour les mauvaises raisons, encore une fois.
Ben, c'est pas surprenant, là. Trump est souvent une distraction. Tout d'abord, je veux dire que par rapport à Justin Trudeau, il a été critiqué parce que il n'était pas à la cérémonie au Cénotaphe à Ottawa, là, au monument pour les morts. Mais moi, je pense que sa place était à Paris, puis comme les autres chefs d'État, il devait être là. Alors ceux qui le critiquent, ils n'ont pas d'affaire à faire ça.
Alors, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi.
Deuxièmement, comme on vient de le dire, Trump, source de distraction, ça a commencé quand il est arrivé en Europe. Il s'est mis à critiquer la suggestion d'Emmanuel Macron pour une armée européenne. Là. Macron qui cherche des solutions, l'OTAN, tout ça. Donc, il a suggéré ça et Trump s'en est pris à lui en disant que c'était une insulte pour les États-Unis. Deuxièmement, il a annulé une visite à un cimetière militaire américain parce qu'il pleuvait.
Ouais.
Alors, il a été critiqué par plusieurs aux États-Unis, mais aussi à l'étranger, notamment par le petit-fils de Winston Churchill, qui est un député conservateur maintenant, qui a dit que ça n'avait pas de bon sens que Donald Trump se présente pas pour commémorer la mémoire de ces militaires américains tombés au combat lors de la Première Guerre mondiale. Il s'est pas rendu aux Champs-Élysées pour marcher avec les autres chefs d'État et les autres premiers ministres vers les cérémonies. Le seul qui semblait heureux de voir Donald Trump, c'était Vladimir Poutine. Quelle surprise! Et là, il y a deux chefs d'État, deux chefs de gouvernement qui ont fait des déclarations coup sur coup. Là, Emmanuel Macron, le président français, qui a fait une déclaration lors des cérémonies qui semblait viser Trump, mais pas seulement Trump, mais qui semblait viser Trump et qui a fait réagir notamment au Québec. Et Justin Trudeau en a remis ce matin en faisant des déclarations sur la façon d'agir de Trump. Enfin, c'est pas dit, mais c'est semble viser Trump également sur les médias sociaux. Donc, on peut écouter Emmanuel Macron et Justin Trudeau.
Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. En disant « nos intérêts d'abord et qu'importe les autres », on gomme ce qu'une nation a de plus précieux, ce qui la fait vivre, ce qui la porte à être grande, ce qui est le plus important, ses valeurs morales.
L'exploitation et le détournement de ces nouveaux outils pour inciter la haine, le conflit et même la guerre. Alors nous avons une responsabilité collective en tant que démocratie libre.
Oui. Ouais, moi, je fais partie de ceux qui n'étaient pas trop contents de la déclaration de Macron.
J'ai
parce
vu
que,
ça passer, oui.
Ouais, ouais, ben je l'ai tweeté. Là. Voici ce que j'ai tweeté, là, parce que je veux que les auditeurs le sachent. Moi, j'ai écrit « On se calme, président Macron. Vous n'avez pas le monopole du mot « nationalisme ». Ce que vous décrivez comme du patriotisme s'appelle chez nous « nationalisme ». Il peut être aussi beau ou aussi laid que votre patriotisme, ça dépend de ce qu'on y met. Notre nationalisme peut être aussi beau ou aussi laid que votre patriotisme, ça dépend de ce qu'on y met. Parce que c'est ça, c'est qu'il dit, dans le fond, le nationalisme, c'est l'enfer, c'est le diable, c'est le racisme, c'est l'extrême droite. Mais le patriotisme, ah, ça, c'est extraordinaire. Ben, ouais. C'est parce que, dans mon esprit à moi, là, les mots sont interchangeables. Ces deux mots-là sont interchangeables. On peut très bien dire nationaliste ou patriote, là, pour moi. En tout cas, dans le contexte québécois, là, ça peut être interchangeable.
Certainement que dans le contexte québécois, ça l'est. Les gens, la plupart des Québécois se décrivent comme nationalistes. Mais dans le cas d'Emmanuel Macron, il tente de faire une distinction entre les deux mots. Et évidemment, lorsqu'il dit mettre les intérêts de sa nation en premier, d'abord et avant tout, c'est tout le concept du « Make America Great Again »,« America First », que Donald Trump pousse. Mais il faut aussi comprendre qu'en Europe, les mouvements nationalistes s'inscrivent pas dans le même contexte qu'au Québec. C'est-à-dire que les mouvements nationalistes sont très protectionnistes, sont anti-immigration. Il y a la montée de ces partis nationalistes partout en Europe, dans des pays qui sont déjà indépendants.
Souvent, ils sont associés à l'extrême droite. C'est un
effectivement.
Fait.
Effectivement.
C'est juste que quand tu décides que tout ce qui est nationalisme est mauvais, ben là, parce que là, je m'excuse, là, mais c'est pas à toi nécessairement, de toi, président Macron, de décider pour le reste de la planète que tout ce qui est nationalisme est mauvais, là. Tu comprends? Je veux dire, à un moment donné, là, il y a quand même une responsabilité, je trouve, Emmanuel Macron, là, d'être nuancé, je dirais. Puis je comprends que le Québec s'en balance, là. Mais le Québec, il n'y a pas juste le Québec. Là où les mouvements nationalistes ont été des mouvements de libération puis d'émancipation, il y a plein de pays dans le monde où les mouvements nationalistes ont été des mouvements progressistes. Ils ont été bons pour le peuple, pour l'avancement des intérêts, pour l'égalité des gens. Alors, c'est là que j'ai trouvé qu'il était allé un peu loin. Paul, tu veux enchaîner?
Ben, il y a peut-être deux commentaires rapidement. Le premier, il y a peut-être quelque chose qui se perd dans la traduction quand on passe du français à l'anglais avec les deux termes. Le deuxième, je me souviens plus quel intellectuel québécois, c'était Fernand Dumont ou un autre, qui disait que il y a une différence entre le nationalisme pour une petite nation qui n'a pas accédé à son indépendance, puis pour une grande puissance politique. Et ce penseur-là, que ce soit Dumont ou quelqu'un d'autre, peu importe, là, disait « Moi, je suis un nationaliste québécois, mais peut-être que si j'étais américain ou si j'étais français, je ne serais pas nationaliste. »
Oui, c'est intéressant. Si on veut conclure, Carl, qui est clair, c'est que les journalistes ont décodé, et dans les propos de Macron et dans les propos de Trudeau, c'était qu'ils visaient Donald Trump, sans le nommer.
Et fallait voir le visage de Donald Trump lorsqu'Emmanuel Macron fait ses déclarations sur le nationalisme. Il se sentait lui-même visé. Et donc, si c'était l'objectif d'Emmanuel Macron d'essayer de passer un message, ben Donald Trump l'a entendu, mais c'est pas certain qu'il l'a compris.
Oui. Non, en effet. Ouais, qu'il l'a compris ou qu'il veut le comprendre.
Voilà.
Tu sais, il a pu l'entendre, puis il veut juste pas...
C'est pas un bon argument dont on a besoin pour convaincre Donald Trump. Peu importe là, la précision de vos arguments, je pense pas que ça va fonctionner.
Non, je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi, t'en es venu à la conclusion qu'on pouvait l'atteindre d'une autre façon?
J'attends encore mon tête-à-tête avec lui. j'ai quelques trucs dans mon sac, mais je les déballerai pas en ce moment.
Non, c'est ça. Tu vas garder. Oui, ça serait comique, effectivement. On va s'arrêter au retour. Justement, les patients qui attendent pour voir un spécialiste, peut-être que c'est ça qui ça y prend.
Une consultation avec un professionnel de la santé, trois petits points.
Oui.
Oui, c'est ça. De l'équilibre émotionnel. Oui.
Après la pause. De retour avec Paul et Carl. Paul, parle-nous de cette nouvelle de ta collègue Ariane Lacourcière au sujet de la non-disponibilité des médecins spécialistes.
Oui, 68%, je ne sais pas si c'est une bonne note pour toi ou non. Est-ce que tu étais content quand tu avais ça à la petite école, Bernard?
Non, pas content. Mes parents trouvaient que non, 68, c'était pas assez ça.
Ça, 68%, c'est le nombre de médecins spécialistes là, qui réussissent à donner une consultation dans le temps visé, selon le nouveau système. Parce qu'on a un nouveau système depuis 2016, ça s'appelle le Centre de répartition de demandes de services, ou CRDS. Ouais. À dire, tu vas avoir l'air de connaître ça. C'est un nouvel acronyme dans le milieu de la santé. Justement, il en manquait.
Oui, c'est ça.
Et donc, ce qui se passe, c'est que les omnipraticiens, depuis 2016, quand ils veulent donner un rendez-vous à leur patient auprès d'un médecin spécialiste, ben ils passent par ce centre.
C'est comme un guichet unique. Hein?
Oui, c'est ça. Hein? Qui presque, là, il fonctionne pour le 2/3 des spécialités médicales. Ça devrait être concrétisé l'hiver prochain. Donc, toutes les spécialités médicales vont fonctionner à partir de ce guichet-là.
Et, l'hiver prochain quand on est en hiver 2019?
Oui, exact, c'est ça. Okay. Et là, on avait des cibles. Par exemple, quand le cas est jugé urgent, il faut que 90% des patients soient vus dans le temps visé, 75% pour ceux qui sont moins à risque. Mais bref, au-delà des chiffres, là, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on avait des cibles assez exigeantes et on n'est pas du tout on ne les atteint pas et on ne semble pas en voie de les atteindre. Il y a plein d'explications, les explications habituelles. Là. Je ne sais pas
d'argent.
Si c'est des explications, des justifications,
il
des
d'argent.
Excuses.
Il manque, Paul, dis-moi.
Je pense pas.
Non, il ne manque pas d'argent.
Ça dépend. Tu veux dire que si on payait plus les médecins spécialistes, ça fonctionnerait?
Ben oui, c'est comme ça que ça marche.
À coup de 1 000 $?
Pas comme ça que ça marche.
Tu ferais un bon ministre de la Santé, Bernard.
Coupe de millions, là.
Je vais donner mon NIP, tu géreras mes économies. Je sens ta rigueur.
Oui, oui.
Et contagieuse, dont les explications, c'est qu'il y aurait congestion, trop de personnes qui demandent des rendez-vous, report. Des fois, les gens obtiennent un rendez-vous et le reportent eux-mêmes pour des raisons qui leur appartiennent. Ou Un autre classique, les cas qui ne seraient peut-être pas jugés non nécessaires ou qui seraient mal catégorisés à l'avance. Bref, je pense que tu vas avoir la chance d'en parler avec oui. Diane Francœur,
oui, oui, de la Fédération des médecins spécialistes. Oui, oui, à 14h, Mme Francœur, la présidente de la FMSQ. OK, mais si je comprends bien, tu m'as donné deux raisons pour lesquelles les cibles ne sont pas atteintes. Premièrement, les patients...
Je te soumets des hypothèses qui pourraient être invoquées.
Les patients qui ne se présentent pas... et qui annulent pas leur rendez-vous pour permettre à quelqu'un d'autre...
Ou qui le reportent, tout simplement. Je dis pas qu'ils gardent leur rendez-vous et ne se présentent pas.
Mais c'est la faute des patients. C'est ça?
Pas selon moi.
Mais non, mais... Alors, la deuxième explication, c'est...
La deuxième... Moi, je ne te hiérarchise pas les explications. Je ne te dis pas quelle est la principale ou non. Oui. J'ai énuméré quelques hypothèses dans le désordre qui ne sont pas exclusives. Et j'ajouterai à ça le fait qu'il y a beaucoup de dossiers.
Hein? Et c'est 30 à 40 000 par mois de rendez-vous qui est demandé. C'est quand même énorme. Ceci dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est, bon, on n'atteint pas ça dans les délais prescrits, là. Il y a cinq catégories, hein. La catégorie A, c'est que les cas urgents, faut que ça soit vu par un médecin spécialiste en 3 jours. Les catégories E, qui sont les moins urgents, ils ont 1 an pour les voir. Mais entre les deux, il y a beaucoup d'écart. Donc, est-ce qu'un cas urgent qui est vu en 5 jours, c'est raisonnable? Ben, c'est pas un délai si pire que ça quand tu regardes. Ben, faudrait voir, est-ce qu'on parle d'un délai de 2 ou 3 jours en dehors de la cible ou un délai d'un mois? C'est là qu'on connaît pas exactement jusqu'à quel point les retards sont énormes. Mais au niveau des cibles, c'est clair qu'on manque la cible, puis qu'il y a plusieurs régions, là. On est en bas du 50%. À Montréal, je pense que c'est 43%. C'est pareil en Côte-Nord. Puis Bas-Saint-Laurent, c'est très, très en deçà des cibles.
Ça varie selon les spécialités, bien sûr, aussi.
Oui, c'est ça. Les meilleures étant les meilleures spécialités.
Moi, je connais juste la pire.
La pire, c'est?
Les gastro-entérinologues, je crois. À Montréal, c'est une des pires, sinon la pire.
Donc, les problèmes d'estomac, les problèmes d'intestin.
Exact.
C'est ça?
Oui, c'est ce secteur-là, en gros, entre le nombril et les pectoraux, Bernard.
Oui, il y a l'urologie aussi qui est un problème.
Oui, oui, qui est plus bas, celle-là, un petit peu. Ouais. OK, Carl, parle-nous donc un petit peu d'immigration, hein, c'est ça, d'immigration?
Oui, ben oui. D'immigration. Écoute, j'ai pas vu ça passer il y a 2 semaines, là, quand le fédéral a annoncé son plan d'immigration. Je rappelle que la cible pour le Canada va passer à 350 000 par année, donc un peu plus de 40 000 de plus que présentement. Mais ce que j'ai pas vu passer, c'est le Devoir qui rapporte ça ce matin, c'est que le fédéral a annoncé qu'il allait créer un guichet unique pour les futurs immigrants francophones et pour soutenir la francisation et l'intégration dans les provinces autres que le Québec. Alors ça veut dire que le fédéral va faire un effort pour attirer des francophones à l'extérieur du Québec. Mm-hmm. Vous y mettez 50 millions de dollars. Et on cible là 4,4% d'immigrants francophones dans son total. Pour l'instant, on tourne autour de 2400 francophones qui vont s'établir dans le reste du pays, ce qui est pas énorme. Mais si on augmente ça, alors que le Québec présentement semble avoir de la difficulté à attirer les immigrants francophones, on dit que la proportion est passée là en 5 ans de 62% à 42%. Mais ça va augmenter la pression sur le Québec.
62% de tous les immigrants, toutes catégories confondues, arrivaient au Québec et parlaient français.
Là, voilà. C'est... Ou étaient considérés comme francophones.
Et 5 ans plus tard, c'est moins de la moitié, 42%.
Exactement.
Et toi, tu dis, exactement. Si le reste du Canada attire des francophones, ça va devenir encore plus difficile pour le Québec de recruter des immigrants francophones, c'est ce que tu dis?
Bien, c'est qu'ils vont en prendre une partie, des gens qui regardent le Canada. Il y a certainement certains d'entre eux qui vont choisir ailleurs qu'au Québec à cause des incitatifs fédéraux. Et là, il y a deux problèmes que je vois. D'une part, donc, il y aura plus d'immigrants francophones qui vont aller ailleurs qu'au Québec. D'autre part, le poids du Québec va diminuer au Canada parce que pendant que le Canada augmente son nombre total d'immigrants, la CAQ, elle, veut diminuer le nombre. Alors, on augmentera plus vite ailleurs au pays et donc le poids, toute proportion gardée, du Québec va diminuer de manière accélérée.
Oui, on est à quoi, là? 23, autour de 23% hein, de la population canadienne.
Un peu en bas du quart.
Oui, oui, voilà. Réaction, Paul?
L'immigration francophone au Québec, bien sûr, le Québec donc contrôle son immigration économique et il décide de l'importance qu'il accorde aux Français. Ça varie selon les gouvernements. On le sait, la grille de pointage a été modifiée pour baisser les points que tu reçois quand tu maîtrises le français. Donc, ça explique sûrement au moins en partie pourquoi, dans les dernières années, on accueille moins d'immigrants francophones. Je ne sais pas s'il y aurait un cannibalisme entre Ottawa et Québec ou parce qu'Ottawa veut attirer plus de francophones, il en restera moins pour le Québec. En tout cas, si tu regardes l'analyse que faisait Jean-François Lisée dans la dernière campagne électorale, lui, il voyait plein de bassins d'immigration francophone où on pourrait aller chercher des gens parce que lui, évidemment, il voulait que le français soit une condition nécessaire pour obtenir ton certificat de sélection au Québec. Il faut rappeler que la Coalition Avenir Québec, c'est le contraire. M. Legault, on a beaucoup parlé des seuils, évidemment. Il voulait baisser de 52 000 à peu près à 40 000 pour les premières années de son mandat, le nombre d'immigrants qu'il admet. Mais l'autre volet, c'est qu'il baissait le poids du français pour miser à 100 % sur la formation avec la main-d'œuvre puis ensuite franciser les gens une fois arrivés sur place.
Voilà, exactement. Donc, on les choisit en fonction des besoins de main-d'œuvre. Puis une fois arrivés chez nous, ils apprennent le français, on ne sait pas trop quand.
Espère-t-on.
Ces heures d'ouvrage ou le soir, en dégâts. Carl et Paul, merci à vous deux. À demain.
Merci.
À demain.
On s'arrête et je vous le rappelle, là, après la pause, on aura Michael Fortier qui fait 1 million à Sainte-Justine.